Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Merci d'écouter la radio Nzamba Gateka Kawe, c'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principales articulations. Les entraînements paramilitaires des jeunes Imbonerakure sont signalés au lycée d'Ogoui. Les parents d'élèves s'inquiètent et disent que des exercices pareils ne se font pas en milieu scolaire. Et puis, un militant du parti CNL est détenu depuis 4 jours dans les cachots de la police à Kirundo. Il est accusé de vol dans les champs, mais certains habitants disent qu'il est victime de sa famille politique. Entre-temps, l'initiative des droits humains au Burundi, IDHB, constate que l'impunité a continué à se manifester durant les 2 années qu'Evariste Ndayishimiye au pouvoir. L'organisation lui demande plus de volonté pour décourager à jamais les auteurs de ces différentes exactions. Et voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des exercices paramilitaires des jeunes Imbonerakure sont signalés au lycée de Bouri, au chef-lieu de la province de Bouri. Ces entraînements inquiètent les parents d'élèves de cette école, surtout que les élèves sont en pleine période des examens de fin d'année. Ils disent ne pas comprendre comment ces exercices paramilitaires se font en milieu scolaire. Les détails avec Pierre Gaumou.
Selon des informations recueillies par la radio Nzamba au chef-lieu de la province Bururi, 200 jeunes Imbonerakure venus de toutes les collines de la province sont arrivés dans la soirée de ce dimanche dernier dans les enceintes du lycée Bururi. Selon les mêmes sources, c'est très tôt dans la matinée de ce lundi qu'ils ont débuté la formation dans le centre d'instruction des hommes de troupes à Bururi. Dans la mi-journée, ils ont continué la formation dans les enceintes du lycée Bururi. Cette formation et entraînement paramilitaire, dispensé par des hommes en tenue militaire, inquiète fortement les parents des élèves de ce lycée.
Nous avons bel et bien vu quand ils ont débarqué en tenue d'exercice, entourés des hommes habillés en tenue militaire. C'était dans la mi-journée de ce lundi. Nous ne connaissons pas ces gens qui sont en train de dispenser cette formation paramilitaire. Non plus nous ignorons encore l'objectif visé. Ce qui fait peur et nous inquiète beaucoup plus, cette formation est en train d'être donnée à des gens qui ne cessent de tuer et malmener la population. Notre inquiétude, non moins grande, la formation est dispensée en milieu scolaire où les élèves sont en plein examen. Vous imaginez combien c'est gênant? Comment les enfants peuvent se concentrer et surtout cohabiter avec ces gens?
Vous saurez que cette formation va s'étendre sur une période de 2 semaines. Ce genre de formation avait déjà été organisé dans les provinces de Makamba, Lumonge, Murandia et Chibitoke. La rédaction de la radio Nzamba à Gateka Kawe a appelé par téléphone Leonidas Wandenzamaso, gouverneur de la province de Bururi, pour plus de précisions, mais sans succès.
Merci Pierre Gahungo pour ces précisions. Un membre du parti CNL de la colline Yabougeni en commune Rusoni de la province de Kirundo est incarcéré depuis 4 jours au cachot de la police judiciaire à Kirundo. Le chef de cette colline l'accuse d'avoir détruit un champ de culture des oignons. Les habitants de la colline ne sont pas du tout du même avis. Ils pensent plutôt que son militant du CNL est victime de son appartenance politique. Alexandre Nyongeko nous en dit plus.
La destruction d'un champ d'oignons par des gens qui n'ont pas été identifiés est à l'origine de l'incarcération de son membre du parti CNL. 2 jours après, c'est-à-dire le lundi 27 juin de cette année, le chef de colline a ordonné l'arrestation de Bizimana Innocent, l'accusant d'être l'auteur de la destruction. Il l'a directement conduit au cachot de Rusalasi, où il a transité pendant quelques heures avant d'être transféré au cachot de la police judiciaire de Kirundo. Écoutez un de ses voisins, il nous relate les faits.
C'était ce vendredi qu'on a constaté que le champ des oignons a été détruit, sans connaître l'identité du malfaiteur. Lundi de cette semaine, le chef de colline a arrêté Innocent Bizimana, l'accusant d'être auteur du forfait. Il l'a directement conduit au cachot à Rusalasi. Là, il n'y a même pas passé une nuit. Il a été vite conduit au cachot de la police judiciaire à Kirundo. C'est là qu'il est incarcéré.
Il y trouve en cela une chasse à l'homme qui continue contre les opposants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Il demande à la justice de faire correctement son travail afin d'arrêter ce genre d'injustice faite aux membres des partis de l'opposition.
Nous pensons que c'est la chasse à l'homme qui continue contre les opposants du parti CNDD-FDD. Il est accusé d'avoir refusé d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. On lui demande d'adhérer à ce parti pour qu'il soit libéré. Nous demandons que la justice fasse son travail pour que cesse la justice faite à ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a contacté par téléphone Nikuze Justin alias Kadogo, le chef de colline Nyabugeni, pour qu'il s'exprime là-dessus sans succès. Non plus, l'administrateur de la commune Woussoni n'était pas joignable pour répondre à nos questions.
Et puis, un homme soupçonné d'être un tradit praticien est gardé depuis mercredi dans les cachots de la police à Gitaza, dans la commune de Mouruta de la province de Rumonge. Il est poursuivi dans une enquête criminelle à propos d'un corps sans vie d'une femme retrouvée mardi dernier au bord du lac Tanganyika sur la colline de Gasangé. Le responsable collinaire avait également été arrêté dans le même dossier. Plus de détails avec Georges Nimeya.
Les habitants de Gitaza font savoir que notre habitat de la localité, réputé pour être un tradit praticien, est en garde à vue dans les cachots de la police locale et est accusé d'avoir tué une femme pour qui son corps a été découvert au bord du lac Tanganyika le matin du mardi dernier. Le corps a été acheminé au centre de santé Gitaza après identification. Les habitants de Gasangé ont révélé que la femme venait de passer quelques jours au domicile du tradit praticien. La police est allée vite à sa recherche et ne l'a pas directement retrouvée et a d'abord arrêté le chef de colline Gasangé, Pascal Andatuyaga, surnommé Mava.
Une personne est en garde à vue pour enquête. Il est un tradit praticien. Un autre qui avait été arrêté pour enquête, c'est le chef de colline Gasangé, Pascal Andatuyaga, alias Mava. Mais il a été relâché. Le dit tradit praticien a été arrêté au niveau de Magara quand il tentait de fuir. Le corps sans vie de cette femme a été retrouvé par les pêcheurs dans la matinée de mardi. Elle présentait des signes de quelqu'un qui a été tué par étranglement. Son corps a été entassé de beaucoup de pierres au bord du lac à Gasangé, tout près de l'église anglicane de Gitara.
Le tradit praticien a été arrêté à Magara dans la commune de Bugarama quand il tentait de fuir, indique des sous sa guitare. Le chef de colline a été relâché après l'arrestation du tradit praticien. La victime a été identifiée et était native de la commune de Mutambo, non loin de la zone de Busenge de la commune de Mouta. Les siens sont venus dans l'après-midi de la même journée de mardi pour son inhumation. Il demande à la police de continuer ses enquêtes pour réprimer ce crime. Certains des responsables policiers à Gitaza confirment les faits et indiquent que des enquêtes continuent pour traquer les auteurs de ce crime.
L'impunité au Burundi reste la triste réalité, surtout face aux meurtres politiques commis par les agents de l'État et les jeunes Imbonerakure. C'est le constat de l'organisation Initiative des droits humains au Burundi, IDHB. Dans une lettre que cette organisation vient d'adresser au président Ndayishimiye, elle montre bien que les membres des partis de l'opposition sont victimes d'assassinats, des actes de torture, des persécutions ou de disparitions forcées. L'IDHB interpelle le chef de l'État de joindre les actes à la parole en traduisant tous les auteurs de ces crimes en justice. Suivez Karina Tessatian, chercheure auprès de l'IDHB.
La lettre cite 6 cas que nous avions déjà évoqués avec lui dans une première lettre en 2020. La plupart des meurtres de membres du parti d'opposition, le CNL, par des jeunes de la Ligue du Parti au pouvoir, les Imbonerakure, pendant la période électorale ou préélectorale. Ce n'est que dans l'un de ces cas qu'il y a eu même un semblant de justice. Il s'agit de deux Imbonerakure qui avaient été jugés et condamnés à 15 ans d'emprisonnement pour le meurtre d'un membre du CNL dans la province de Mwaro. Mais dans les 5 autres cas, personne n'a été traduit en justice. Ce ne sont pas des cas isolés, comme le démontrent 6 autres cas plus récents que nous décrivons dans notre lettre. Ce sont des cas, là aussi, d'opposants ou d'opposants présumés, dont certains ont été torturés par le service de renseignement jusqu'à la mort, d'autres qui ont été abattus et d'autres qui ont été victimes de disparitions forcées. Et là aussi, sur les 6 cas, il y a un seul cas où l'un des auteurs présumés a été arrêté. Il s'agit de l'agent du SNR, Gérard Naïsenger, qui est très bien connu pour sa participation dans de nombreux autres cas de torture. Mais dans les autres cas, jusqu'à présent, les familles attendent toujours la justice. Le temps passe. Cela fait déjà 2 ans depuis l'inauguration du président Évariste Ichinyé. Pendant ces 2 années, le président a promis beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de discours, surtout concernant la justice. Il a dit que personne n'est au-dessus de la loi, que les maux de la justice sont en train d'être corrigés et que l'impunité crée l'anarchie. Sur ce dernier point en particulier, il a raison. Mais malheureusement, il a toujours un grand écart entre ses promesses et la réalité. Au départ, beaucoup de Burundais ainsi que des acteurs internationaux voulaient lui donner le bénéfice du doute et pensaient réellement qu'il était engagé dans la promotion de la justice. Mais 2 ans plus tard, malheureusement, c'est plutôt un sentiment de déception qui commence à s'installer. Nous demandons donc au président, en tant que garant de l'indépendance de la magistrature, de prendre des actions décisives pour mettre fin à l'impunité au Burundi une fois pour toutes.
Inzamba.
Et parlons économie à présent. Le Burundi n'a jamais fait de progrès économique depuis son indépendance, d'où son niveau de sous-développement. C'est l'analyse de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Son président dresse un bilan négatif des 60 dernières années écoulées. Les raisons politiques sont en substance à la base de ce sous-développement du Burundi. On écoute Faustin Ndikumana.
Et la récolte de vida burundais de 1962 et sont supérieurs au compte de vida burundais aujourd'hui, parce que en 1962 on était à 2 millions. Maintenant la population a été multipliée par 6, nous sommes à presque 12 millions. Alors que la production n'a pas suivi. Encore l'économie a été complètement laminée par des crises politiques à caractère répétitif. Déjà au lendemain de l'indépendance, il y avait une démocratie barbissante. En moyenne, la longévité gouvernementale était 7 mois. Il était difficile de faire un programme de développement de son. En 72, le PIB a reculé de 6%. De 1993 à 2005, la traversée des airs, le PIB a reculé de 33%. Et au lendemain, avec la reprise de la désinstitution démocratiquement, et en 2005, et on n'a pas pu avoir un taux de croissance pour récupérer ce qu'on avait perdu pendant la guerre. Parce que vous vous souvenez, avec 2005, le parti au pouvoir, au lieu de mobiliser les énergies sur le développement et les réformes, il y a eu une crise interne qui a diminué l'énergie du parti en 2000. Vous vous souvenez des faisceaux des partis politiques dans les élections, la naissance de la DC et Kiwiri, les crises politiques qui n'ont terminé pas en 2015, ça a été encore une autre crise qui a même fait reculer l'économie. Donc les problèmes politiques et de leadership ont été à la base du sous-développement de notre pays. Et donc avec 2020, alors il devait y avoir une renaissance nationale pour qu'on change la situation qui n'est pas reluisante depuis l'avènement de l'indépendance.
Cette ONG locale élabore une série de 10 recommandations qu'elle adresse au gouvernement burundais pour relancer l'économie du pays. Parmi ce plan figure la cohésion politique nationale en passant par le respect de l'accord d'Arusha et la charte de l'unité nationale, ainsi que la mise en place par le gouvernement d'une vision économique claire. Suivez Faustin Ndikumana.
Et on ne peut pas décorer ça tant qu'on n'accepte pas qu'on est pauvre, qu'on assume pas ces mauvais classements pour justement prendre des mesures concrètes. Parce que pour guérir la mal, il faut l'accepter. Deuxièmement, il faut une cohésion nationale. Pour parler de cohésion nationale, alors que même les documents de référence, la charte de l'unité, l'accord d'Arusha sont ignorés. Troisièmement, on passe au développement alors qu'on n'a pas la trajectoire de développement. On élabore des documents de référence, la vision 2025. Le principe de développement, mais on ne se réfère pas à ces documents. Même le Forum national et économique qui se déroulait en mois de novembre, les recommandations tardent à venir. on ne peut pas se développer tant qu'on ne met pas la recherche scientifique devant et la mise à condition des compétences, des experts, il est difficile. C'est qu'on ne peut pas coller tant que la stratégie de mobilisation des ressources externes n'est pas là, promotion des exportations. La stratégie de mobilisation des ressources externes, comme l'aide publique au développement, les emprunts extérieurs, les investissements directs étrangers, les partenariats publics-privés, les fonds de la diaspora, il faut une stratégie de mobilisation des ressources externes en bonne et due forme. Si on ne peut pas développer des corps économiquement, alors qu'on a une critique d'opacité budgétaire, une gestion non transparente des finances publiques qui fait le lit du détournement. Effectivement, on ne peut pas développer des corps économiques si on ne s'attaque pas à la corruption avec vigueur, à l'immunité. Et aussi, il faut une administration efficace et non politisée. Il ne faut pas que les affaires du parti se mélangent avec les affaires de l'administration. Et enfin, le soutien du secteur privé. Il ne faut pas que les administratifs soient les premiers dans les affaires. Il ne faut pas que l'État infecte tous les secteurs de la vie économique, même faire le commerce. Donc il faut recentrer la mission de l'État dans l'économie, dans la gestion des affaires. Quand il est une bonne à tout faire, la situation se complique davantage. J'imagine si on table sur ces contradictions, alors la situation peut être relevée.
Dans la suite de cette édition, les habitants du chef-lieu de la province de Rumonge se lamentent. Certaines marchandises en provenance de Bujumbura manquent cruellement dans cette ville à cause de la route nationale numéro 1, qui n'est pas praticable depuis plus d'une semaine suite au glissement de terrain. La population demande que cette route soit réhabilitée. Jocelyne Cazé pour les détails.
Ces commerçants du chef-lieu de la province Lomongue sont inquiets. Ils expliquent qu'ils font d'énormes dépenses. Les carburants et les boissons de la Braroudi sont les premières marchandises à connaître la pénurie en province Lomongue, surtout au chef-lieu de la province. Des camions des sociétés qui approvisionnent le chef-lieu de la province Mongue ne trouvent pas d'accès suite à la route nationale numéro 3 qui est bloquée. Cette route est jusqu'à présent coupée dans la localité de Kabunambo, sur la colline Rutunga, zone Gitaza, en commune Muhunta, et cela depuis mardi de la semaine passée. La pénurie du carburant entraîne la montée des prix des autres denrées alimentaires de première nécessité, sans oublier la montée des prix du ticket selon les usagers de la RN3.
Les boissons de la Braroudi, le carburant, toutes ces marchandises ne passent plus. Elles sont bloquées au niveau des localités de Magala et Kitaza. Les produits de première nécessité deviennent de plus en plus chers. On s'approvisionnait dans les provinces de Chibitoki et Kayanza.
Le ministre en charge des infrastructures et l'agence routière du Burundi avaient donné 5 jours plus tard pour pouvoir réhabiliter la route, mais rien n'est encore fait selon les usagers.
La situation devient alarmante. Nous avons entendu le ministre des Infrastructures et le responsable de l'agence routière du Burundi dire que dans les 5 jours seulement, la route sera réhabilitée, mais rien n'a été fait.
Ces derniers demandent au gouvernement du Burundi de fournir une main-d'œuvre suffisante pour que cette route soit encore praticable. À ce sujet, la radio Inzamba Gatika Kawe a essayé de joindre par téléphone le directeur général de l'agence routière du Burundi, Régis Mawinayo, mais sans succès.
Et de Rumonge cap sur la province de Makamba, où les conducteurs de motos se lamentent également. Ils accusent les agents de la police de leur demander des pots de vin. Ces policiers saisissent les motos arbitrairement pour les remettre, moyen d'un paiement d'une certaine somme d'argent. Les chauffeurs de motos demandent aux autorités habilitées de faire cesser ce comportement des policiers. Le point avec Jean-Marie Nabachinze.
Comme l'affirment certains de ces conducteurs de moto, la saisie des motos partout où ils les rencontrent est devenue une habitude pour les policiers du chef-lieu de la province de Makamba afin de rançonner l'argent de ces conducteurs. Pire encore, selon ces conducteurs, certains policiers le font en tenue civile. Une moto saisie est remise moyennant de pont de vin, soit en argent, soit en bière. Celui qui ne parvient pas à trouver des pots de vin se voit sa moto conduite sur la chaîne du commissariat de police. Pour la libérer, le propriétaire doit payer une somme allant de 70 à 100 000, comme l'indiquent toujours les conducteurs de ces taxis-motos.
Ces policiers veulent de l'argent. Quand ils t'arrêtent, ils te demandent de l'argent. Et si tu refuses, ils amènent ta moto au commissariat. Pour la récupérer, il faut payer une somme d'argent comprise entre 50 et 100 000. Nous condamnons ce comportement puisque la moto n'est pas une arme. La moto a des documents. Oui. Il y en a ceux qui n'ont pas de papiers, mais ce qui est visible, ces policiers cherchent de l'argent, et pas pour le compte de l'État, mais plutôt pour eux-mêmes.
D'autres arrêtent brutalement les motos et n'hésitent pas à renverser la moto qui refuse de s'arrêter sans se soucier des passagers. Ces conducteurs demandent aux autorités policières de suivre de près son comportement afin de limiter aussi les accidents.
Nous demandons aux autorités policières d'enseigner aux policiers la manière de procédure et les bonnes manières pour ne pas causer l'insécurité routière dans le pays.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore réussi à joindre par téléphone le commissaire de police à Makamba pour nous donner des éclaircissements sur les doléances de ces conducteurs de moto.
Et merci Jean-Marie Damaskinze pour toutes ces précisions et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.